Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. L'inquiétude est-elle sans raison? Ou bien a-t-elle ses raisons que la raison ignore? L'inquiétude n'est pas forcément tragique ni invivable. Elle peut être douce, rêveuse, parfois joueuse, mais elle tient au cœur et au corps et peut entamer l'âme et ses états. Celui qui en a fait un livre, plusieurs livres, s'appelle Fernando Pessoa. Et le voici qui, sous le pseudonyme de Vicente Guedes, nous donne des nouvelles de sa santé.
Ma santé va plutôt bien et mon esprit a été curieusement moins chagrin. Mais même dans ces conditions, une vague inquiétude me torture. Une chose que je ne puis appeler autrement que démangeaison, comme si j'avais des pustules à l'âme. Ce n'est que dans ce langage absurde que je peux vous décrire ce que je ressens. Et tout cela, cependant, ne s'apparente pas vraiment à ces états d'esprit chagrin dont je vous parle parfois, et où la tristesse est de toute évidence une tristesse sans cause. Mon état d'âme actuel a une cause. Autour de moi, tout s'éloigne et s'effrite. Je n'emploie pas ces deux verbes dans la perspective de la tristesse. Je veux seulement dire que chez les gens que je fréquente se produisent ou vont se produire des changements, des achèvements de périodes de vie, et que tout cela, comme pour un vieil homme qui voyant mourir autour de lui ses amis d'enfance, imagine sa mort proche, me suggère, je ne sais de quelle mystérieuse façon, que mon existence doit, va changer aussi.
Bonjour Régis Salado.
Bonjour Adèle Vanrette.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous enseignez la littérature comparée à l'université Paris Diderot et c'est vous qui allez nous accompagner aujourd'hui en compagnie de Fernando Pessoa et de ses nombreux pseudonymes et hétéronymes puisqu'il écrit sous plusieurs identités. Le texte que l'on vient d'entendre, interprété par la comédienne Nicole Garcia, décrit un homme en proie à une vague inquiétude qui le torture, dit-il, mais à laquelle il peut assigner une cause. Ce type d'inquiétude, on va essayer de le définir ensemble, mais d'abord, qui est ce Vicente Guedes qui décrit cette inquiétude?
Alors, votre question, en fait, nous plonge, je dirais, directement au cœur du problème Pessoa. Et notamment du problème aussi des éditions de Pessoa, parce que, enfin, sans vouloir être trop technique, donc là, l'émission rencontre une actualité heureuse, puisqu'il y a une nouvelle édition du livre qui était de l'intranquillité, qui devient livre de l'inquiétude dans cette nouvelle édition mise au point par Teresa Rita Lopes, mais toujours publiée chez Bourgois. Et donc, il y a cette actualité. Alors, pourquoi l'extrait qu'on vient d'entendre nous amène à parler de ces questions d'édition? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas Vicente Guedes ici qui parle, c'est en fait Fernando Pessoa. Et ce fragment de texte qui se trouve à la fin de la première partie de ce livre de l'inquiétude, donc construit par Teresa Rita Lopes, et la première partie est en effet attribuée à Vicente Guedes, mais ce fragment-là est en fait la copie faite par Pessoa d'une lettre qu'il a envoyée effectivement à sa mère le 5 juin 1914, qui était alors en Afrique du Sud. La lettre est envoyée à Pretoria, en Afrique du Sud, où vivait donc la mère de Pessoa, remariée après la mort du père de Pessoa. Elle s'est remariée donc avec un commandant Rosa, un militaire qui a été nommé dans un premier temps consul à Durban. Et le jeune Pessoa est parti en Afrique du Sud. Et ensuite, Pessoa est rentré au Portugal après environ 9 ans passés en Afrique du Sud. Et sa mère est restée en Afrique du Sud un certain temps avec donc son beau-père qui, entre-temps, avait été nommé à Pretoria. Et donc, il y a cet effet tout à fait singulier qui est que on lit ce fragment et on le lit dans la logique de la présentation du livre de l'inquiétude dans l'édition de Teresa Rita Lopes. On le lit naturellement comme un fragment qui serait attribué à cet auteur fictif qu'est Vicente Guedes. Mais en fait, c'est une sorte de collage dans le livre, d'une lettre écrite par Psoa lui-même à sa mère. Et alors, évidemment, c'est un cas unique, tout à fait unique. Et jusqu'à présent, à part la toute première édition au Portugal en 82 du Livro do Desassossego, les éditeurs avaient choisi de faire figurer ce document en annexe.
Le texte, le mot portugais, desassossego, voilà, vous le dites mieux que moi, comment se prononce-t-il ?
Desassossego, mais bon, je ne suis pas non plus portugais. Donc,
alors qu'on peut traduire, qui a été traduit jusque-là par intranquillité, qui vient d'être traduit par inquiétude, dans deux éditions donc différentes. Pourquoi avoir remplacé le terme d'intranquillité par celui d'inquiétude ? Voici la réponse de Teresa Rita Lopez, qui a dirigé l'édition de la nouvelle traduction chez Christian Bourgois.
Intranquillité, c'est un néologisme presque pour vous, c'est pas un mot quotidien. Il traduit pas du tout desassossego, le mot portugais, livre du desassossego, qui est un mot tout à fait banal, quotidien, et qui on pourrait dire par inquiétude, qui est aussi, comme en portugais, un mot tout à fait commun. D'autant plus que le personnage qu'on a plus en vue quand on parle du livre de Desassossego, le livre de l'inquiétude, est bien Bernardo Soares, qui est un pauvre type tout à fait commun, tout à fait quotidien. Ça va pas avec ce titre inattendu, un peu bizarre, ce néologisme en tranquillité, bien que je l'aime bien, vous voyez.
Et c'est vrai que le terme d'intranquillité est quelque chose de très séduisant, c'était un néologisme à l'époque. Pensez-vous, Régis Salado, que le terme d'inquiétude, enfin renommé, baptisé, ce livre qui existait déjà, même s'il connaît quelques modifications dans cette édition actuelle, de livre de l'inquiétude, change le contenu même du texte? C'est-à-dire, ce ne sont pas deux synonymes. Est-ce que c'est vraiment un parti pris éditorial ou est-ce que finalement, le contenu étant le même, c'est qu'une histoire de vocabulaire et de détails?
Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire que ça change le sens ou le contenu du texte. Bon, ce qui est assuré, comme le dit très bien Teresa Rita Lopes, c'est que le mot desassossego n'est pas rare en portugais. C'est l'antonyme de sossego, qui veut dire calme, bon, tranquillité, quiétude. Alors, cela dit, en fait, il n'y a pas les deux langues ne se recouvrent pas absolument, parce qu'il y a des contextes où le mot desassossego en portugais peut avoir le sens, par exemple, de confusion, agitation. On peut dire que desassossego, quand voilà, il y a des coups de fil partout, une agitation dans un lieu, etc. Bon, et on traduirait à ce moment-là par quelle confusion, quel désordre, et pas du tout par quelle inquiétude. Vous voyez ce que je veux dire?
Ben oui.
Donc, même si, en effet, le desassossego et le livre du desassossego de Pessoa développent, explorent, déclinent des variations autour de l'inquiétude plus que de l'agitation, il y a aussi quand même une notion de mouvement, de dynamisme, de mobilité dans le mot desassossego, qui me paraît du coup pas plus mal rendu par intranquillité que par inquiétude. Bon, alors après la question du registre est effectivement intranquillité. D'abord, c'est effectivement un néologisme en 88 quand les éditeurs du livre chez Bourgois donc le proposent, mais comme l'avait très bien vu Robert Bréchon, hein, qui écrit ça très tôt, il dit, bah écoutez, ce terme va probablement entrer dans la langue.
Un des grands commentateurs de Pessoa.
Voilà, oui, qui est biographe de Pessoa, qui a publié beaucoup et beaucoup fait pour effectivement diffuser, faire connaître Pessoa en France. Il a été donc un des co-directeurs de l'entreprise chez Christian Bourgois, qui a été si décisive. Et donc, le mot intranquillité est certes un néologisme, mais qui ne crée aucun problème de compréhension. C'est relativement simple. Tranquillité est un mot simple et intranquillité est certes un néologisme. Bon. Ensuite, il y a l'argument poétique, en deux sens. Livro do desassossego, en portugais, le mot est banal, mais il est très allitératif. Vous en convenez, desassossego, et même avec livre, ça fait une sorte de voilà d'écho. Et intranquillité, livre de l'intranquillité, est également très allitératif, poétique. Dans les deux cas, on a affaire à des termes longs, de 5 syllabes. Et donc, pour le rythme, pour la musicalité, il me semble qu'on tient là un argument poétique. Alors, dernier argument en faveur de l'intranquillité, c'est un mot qui finalement n'était pas complètement un néologisme, mais qu'on trouve chez Michaud, hein, qui, donc dans un texte assez tardif, parle effectivement, regarde les gens passer et s'étonne de l'intranquillité des
passants. Le poète Henri Michaud.
Le poète Henri Michaud, dont Robert Bresson était un grand connaisseur, un grand admirateur. C'était d'ailleurs une des intuitions de Robert Bresson qu'il existait un lien entre Michaud et Pessoa, et c'est tout à fait, en effet, c'est tout à fait fondé.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'entre inquiétude et intranquillité, une même région de la vie est désignée, et cette région a une dimension, disons, existentielle. Vous parlez de la dimension poétique, rythmique, et vous avez raison. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, compris dans ces deux termes, une forme de tourment, d'aiguillon qui vient agiter l'âme et qui a une dimension quasiment métaphysique chez Pessoa.
Oui, alors évidemment, le terme métaphysique est un peu encombrant, mais il n'hésite pas lui-même à y recourir, hein, donc à consacrer quelques fragments, effectivement, aux sentiments métaphysiques, etc.
On ne sait jamais s'il est ironique ou pas quand il parle de métaphysique,
d'ailleurs.
Oui, et
d'ailleurs. Surtout, c'est absolument pas systématique. C'est-à-dire, ce qui ferait vraiment la distinction avec un travail de type philosophique, c'est que on n'a pas, et encore moins, je dirais, dans le livre, ou le livre, que dans l'ensemble de l'œuvre de Pessoa, où il y a des tentatives qui prêtent à d'autres auteurs, hein, notamment un certain Antonio Mora, qui est en quelque sorte son hétéronyme philosophe, qui lui propose des textes plus systématiques. Mais dans le livre de l'intranquillité, donc je persiste et signe, on n'a pas du tout, évidemment, d'approche systématique. Et donc il est difficile d'aller complètement sur... les beaux chemins de la philosophie.
Alors, remplaçons métaphysique par existentiel. Si
oui, ça me paraît plus juste. C'est-à-dire que ce qui est... au fond, il y a un mot allemand qui est un intraduisible, mais qui conviendrait assez bien pour décrire ou proposer, en fait, un terme pour qualifier le désassossego, qu'on appelle donc intranquillité ou inquiétude, qui est le mot Stimmung. Ce mot qu'on trouve chez Heidegger et qui caractérise une sorte d'affection de l'esprit, une tonalité, un climat presque. Et donc le désassossego pourrait être effectivement de cet ordre-là, c'est-à-dire moins rigoureusement définissable qu'un concept, mais quelque chose de l'ordre effectivement d'une humeur, d'une tonalité fondamentale existentielle, et qui est une tonalité assez complexe, puisqu'il y a plusieurs composantes ou plusieurs versants possibles de ce désassossego.
On va en écouter une autre dimension, une autre composante de ce terme, peut-être plus mélancolique. C'est la description d'une sorte d'éveil la nuit avec une horloge. Et c'est une ambiance nocturne et le climat dont vous parliez est très précis, très poétique et très évocateur. Écoutez le texte.
L'horloge qui est là derrière, dans la maison déserte, parce que tout le monde dort, égrène lentement le quadruple son argentin qui sonne 4 heures au creux de la nuit. Je n'ai pas les yeux complètement fermés. Ma vue faible est ourlée d'une lumière qui me vient de loin. Ce sont les réverbères allumés là en bas, aux confins abandonnés de la rue. Cesser, dormir, remplacer cette question intervallaire par des choses meilleures, mélancoliques, et dites en secret à qui ne me connaîtrait pas. Cessez. Couler, passer fluide des riverains, flux et reflux d'une vaste mer, le long des côtes dans une nuit où l'on dormirait vraiment. Cessez. Exister incognito et extérieur, être le mouvement des branches dans une allée écartée, une chute de feuilles légères, plus devinée que perçue, haute mer de lointains et fins jets d'eau, et tout l'indéfini des parcs dans la nuit, perdu dans les entrelacs sans fin, labyrinthe naturel dans les ténèbres. En finir, cesser d'être enfin, mais avec une survie métaphorique, à être la page d'un livre, une mèche d'une chevelure dénouée, l'oscillation d'une vigne vierge sous une fenêtre entr'ouverte, les pas sans importance sur le mu gravier du tournant, la dernière haute fumée du village qui s'endort, le fouet du charretier oublié au bord matinal de la route. L'absurde, le désordre, l'anéantissement. Tout, sauf la vie. Et je dors, à ma façon, sans sommeil ni repos, cette vie végétative des suppositions. Et sous mes paupières insomniaques, flotte, comme l'écume paisible d'une mer sale, un reflet lointain de réverbère muet de la rue.
Sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, vous écoutez Pessoa, le livre de l'inquiétude ou de l'intranquillité, lu par Nicole Garcia. En compagnie de mon invité Régis Salado, nous parlons de l'inquiétude cette semaine. Et aujourd'hui, quelle inquiétude! L'homme qui écrit ces lignes, Régis Salado, est un homme qui est hanté par une chose, le terme revient à 5 reprises au moins pendant le texte, c'est celui de cesser. Il faut cesser. Qu'est-ce que ça veut dire? Interrompre la vie, l'existence en général? C'est un désir de mort?
Alors ici, ce serait plutôt une suspension. Si le terme cesser est répété, il est lui-même, par sa répétition, il participe justement de ce mouvement qui fait qu'il n'y a pas d'arrêt. Parce que d'une certaine manière, l'inquiétude ou intranquillité, donc le désassossego, est une sorte de mouvement perpétuel. Et on voit très bien comment ici, le rêveur s'installe dans une sorte d'intervalle. On est entre le sommeil et la veille. On est entre, dit le texte, entre fatigue et inquiétude, anxiété. Et donc ces états intervallaires sont explorés, presque dépliés ensuite par le texte, et constituent une sorte de terrain de prédilection pour les explorations que mène le narrateur dans le livre. On va dire le narrateur pour simplifier.
Parce qu'il y a plusieurs personnages dans le livre. On peut le dire rapidement quand même.
Oui, ça c'est effectivement l'option de l'édition Livre de l'inquiétude avec le S entre parenthèses.
Oui, parce que le nouveau titre ne consiste pas simplement à avoir remplacé intranquillité par inquiétude, mais à avoir mis Livre au pluriel avec le S entre parenthèses.
Oui, c'est ça. Voilà.
Sous-entendu, il y a plusieurs auteurs à ce livre, ou plusieurs livres.
Oui. C'est une thèse, la proposition, elle est assez, je dirais, vigoureuse que fait Teresa Ritter-Lopsch, mais de constituer, ou de construire un livre du désassossego en 3 livres. Et du coup, elle a fait paraître cette édition avec ce titre, Livroche, où le S est entre parenthèses, du désassossego. Ce qui est très curieux quand même, parce que c'est imprononçable, évidemment, en portugais. Est-ce qu'on doit dire ou pas ce S entre parenthèses? Mais surtout, c'est assez insolite, parce que, Psoa ne parle jamais de livrouche du désassossego. C'est-à-dire, il parle toujours, il en parle assez fréquemment. Donc, dans les fragments qui ont été publiés de son vivant, il dit extrait du ou du futur ou du livre du désassossego. Mais on n'a jamais vu ce pluriel, et donc il est insolite. Elle le justifie en s'appuyant sur une observation qui est effectivement incontestable, c'est que dans un premier temps, Psoa attribue à Vicente Guedes les fragments de son livre. Donc c'est une première, ça correspond à une première phase d'écriture, si vous voulez, entre 1914 1920 à peu près. Puis il y a une interruption et l'écriture du livre, des fragments, reprend vers 28-29, et à ce moment-là entre en scène le personnage de Bernardo Swatch. Mais les éditeurs jusqu'à présent avaient considéré que globalement Vicente Guedes est une sorte d'ébauche de ce personnage qui va prendre consistance, qui va être situé socialement, qui va être installé vraiment précisément dans la Baixa de Lisbonne, où on va décrire le magasin de tissus dans lequel travaille Bernardo Soares, donc qui est un magasin de la ville basse de Lisbonne. Et il y a toute une série de détails qui vont venir, qui vont se construire autour de ce nom et de ce personnage de Bernardo Soares, alors que pour Vicente Guedes, c'est beaucoup plus mince, ce dont on dispose. C'est une sorte d'ébauche. Donc, en gros, les éditeurs précédents avaient évidemment mentionné ce fait, que le premier nom associé au livre était Vicente Guedes, mais en général, ils avaient maintenu quand même, dans l'attribution, une sorte d'unité. Alors, elle en fait 3, Vicente Guedes, Bernardo Soares, naturellement, pour... Qui
est tenu pour le narrateur principal.
Voilà,
en fait.
Et qui est le volume, en nombre de fragments, c'est effectivement l'essentiel.
Et le
puis,
baron...
alors, au milieu, elle insère le baron de Thèves, ce qui n'avait jamais été fait avant elle. Elle a pas été suivi vraiment là par les Pessoins. Moi, je suis pas du tout spécialiste de ces questions-là d'édition de texte, donc je prends des avis. Effectivement, Patrick Quillier, éditeur de la Pléiade en France et qui a beaucoup travaillé sur les manuscrits, Michel Chandaigne qui était dans l'équipe Bourgois, qui a aussi édité du Pessoa, au Portugal, des personnes comme Fernando Cabral Martins et d'autres, tous m'ont quand même, effectivement, les opinions concordent, c'est insolite. D'insérer.
Ouais, en ça, c'est assez fidèle à Pessoa.
Le baron de Taïf. Voilà.
Revenons au texte quand même, parce que nous parlons de l'inquiétude ou de l'intranquillité, nommez-la comme vous voulez, c'est la même réalité, et le texte qu'on a entendu était quand même assez troublant, parce, on en l'a dit, cet appel à en finir, à cesser, vous dites, mais la répétition du terme cesser montre qu'il y a un mouvement permanent, et en effet, sous la plume de Pessoa, quel que soit le nom qu'il donne à celui qui écrit, il y a ce mouvement permanent qu'il semble souhaiter ralentir. C'est comme si, comme les choses ne pouvaient pas être mises sur pause, eh bien on souhaite tout éteindre, comme pour essayer de reprendre le dessus sur quelque chose qui nous anime.
Alors, il y a une oscillation. Parce que juste après le passage que Nicole Garcia a si bien lu, c'est d'ailleurs très frappant pour moi d'entendre effectivement la voix de cette comédienne dire le texte, qu'on associe un peu spontanément à une voix d'homme. Donc c'est vraiment très intéressant aussi ce pas de côté que ça fait faire au texte. Mais juste après l'extrait qu'elle a lu, vous avez cette expression « je dors et je dédors
». Je dédors. «
Durmo, ide je durmo ». Bon, qui est en fait une tournure comme les affectionne Pessoa. Il y a des innovations, il y a des néologismes aussi chez lui. Et donc, il y a ce battement ou cette oscillation, il y a cet intervalle. Et dans cette oscillation et dans l'intervalle qu'il explore, il y a une grande mobilité. Et en fait, de l'angoisse, qui est littéralement un resserrement, une paralysie, l'angoisse se décline toujours et est toujours en devenir dans le livre et va produire en fait une exploration de type poétique de la sensation la plus ténue, le bruit, l'atmosphère, un mouvement, quelque chose passe dans la rue. Donc il y a cette exploration qui se déploie qui fait que l'intranquillité ou l'inquiétude, qui est parfois décrite effectivement en termes d'angoisse, etc., est toujours extrêmement productrice du point de vue de l'écriture et d'une écriture, d'une prose poétique magnifique comme cet extrait Le Monde. Alors, il faudrait ajouter à cela que, évidemment, ce qui est très frappant, c'est que ce qui est ici décrit, c'est quand même une sorte d'annulation de soi. C'est-à-dire, le narrateur ici dit cesser, terminer enfin, avec une survie métaphorique, être la page d'un livre, la mèche d'une chevelure dénouée, l'oscillation d'une vigne vierge. Et donc, cesser, terminer quoi ? D'être un sujet, d'une certaine manière, d'être pris aussi dans cette cage de la conscience, de la réflexivité, et entrer dans une sorte de devenir, bon, qui est un devenir presque ici objet, un devenir chose, où le sujet s'annule, mais cette annulation elle-même est un parcours. Je me parcours, justement, disait Michaud, on retrouve tout à fait ça chez Pessoa. Donc, il y a un vertige et une aimantation, quand même, qui est très intéressante dans cette affaire d'intranquillité ou d'inquiétude, qui est presque une utopie du sujet, qui consisterait, effectivement, à aller vers une sorte d'annulation de soi, du moi, de dissolution, presque une abolition de l'existence, pour rentrer, quand même, dans un devenir, rejoindre les choses les plus insignifiantes, les plus ténues. Et donc, il y a un aspect aussi libérateur dans ce mouvement-là.
Donc, ce qui l'inquiète, c'est le jeu, c'est le sujet unique qui l'emprisonne et dont il voudrait se libérer ?
Alors, c'est certainement un sujet d'inquiétude, mais aussi d'un travail critique extraordinaire. Toute l'œuvre de Pessoa conspire à une sorte de dynamitage des catégories reçues de la subjectivité, c'est-à-dire le jeu, le moi, etc. Alors, l'hétéronymie est une des formes prises justement, par ce travail critique sur l'idée de l'identité close sur elle-même ou du moi plein, etc. Et là, dans l'intranquillité, effectivement, il y a une récusation permanente de l'idée d'un contenu ou d'une substance du moi. Il passe son temps à dire « je ne suis rien », comme d'ailleurs Campos dans le bureau de tabac, « je ne suis rien ».
Alvaro de Campos, qui est un autre de ses pseudonymes, qui est l'auteur d'un texte qui s'appelle « Le bureau de tabac ».
Bureau de tabac, qui est un merveilleux
très
poème
court
de 28, voilà, qui commence par « je ne suis rien je ne serai jamais rien, je ne puis ou je ne peux vouloir être rien, et pourtant, je porte en moi tous les rêves du monde ». Alors, d'une certaine manière, ça résumerait assez bien le livre de l'intranquillité. C'est-à-dire, il y a une sorte de récurrence comme ça, de l'énoncé de la nullité, chez Suarez, mettons, mais bon, Guedes dans une première phase. Et cette répétition a une portée critique parce que très vite, ce qui est dit aussi, c'est l'irréalité du moi et du monde. Et donc, au lieu d'essayer de rejoindre le monde par la relation sociale, par des formes d'insertion ou d'action, en fait, il y a un parti pris du rêve, de l'irréalité, et qui est extraordinairement riche dans les, alors dans cette écriture qui se déploie, dans cette prose poétique, mais aussi dans les devenirs du sujet. Ce sont des expériences. Donc, il y a une lecture qui pourrait être un peu plus, je dirais, axée sur une idée de désespoir existentiel, un peu la Pascal, l'inquiétude chez Pascal ou Kierkegaard, mais là, chez ces deux auteurs, on a une armature religieuse ou métaphysique plus solide. Et puis, il y a une autre lecture qui est beaucoup plus du côté des devenirs, hein, qui est plus deleuzienne, en quelque sorte, qui est celle qu'a proposée José Gilles, hein, qui dit, ben voilà, n'adhérant à rien, il peut devenir tout, hein, ce sujet du livre de l'intranquillité.
Il ne cesse de dire, en tout cas, que c'est la sensation qu'il l'unit au monde et avec laquelle il a accès aux choses, la sensation avant la connaissance, avant la raison. Et la sensation est à la fois ce lieu d'une intensité parfois redoutable et en même temps le lieu d'une forme de dispersion. Finalement, la sensation est ce qui fait le moins sujet et en même temps ce à quoi on peut plus facilement s'identifier de manière quasi immédiate. Il n'y a pas de médiation dans la sensation.
Alors, il articule le rêve et la sensation. Vous avez absolument raison. Il faut tenir compte de ça. C'est d'ailleurs, en fait, un terme qui revient tout le temps pour, aussi pour les hétéronymes. Ils sont tous plus ou moins, et selon des modalités différentes, dit sensationniste. C'est d'ailleurs ça, c'est quelque chose qui est théorisé par Pessoa. Il parle de ce primat de la sensation. Dans le cas du livre de l'intranquillité, ce qui est intéressant, c'est l'insistance sur le fait que la sensation, qui est en effet la donnée première, va être analysée, décomposée. Bon, il y a une, par exemple, il y a une métaphore magnifique où il dit « je suis comme une plaque photographique démesurément sensible ». Bon, il y a cette idée d'un sujet sismographe, donc qui enregistre tout, comme le voulait le grand poète Ezra Pound, qui disait les poètes sont les antennes de la race, de l'espèce. Donc, alors, Pessoa est tout à fait dans cet esprit-là. Mais il y a aussi le fait que la sensation ne va pas mener ou ramener le sujet vers le monde ou le réel. La sensation est également produite. Bon, il y a un art de cultiver ces sensations, de les produire, de les rêver. Et au fond, le monde ne sera jamais plus vivant que lorsqu'il est pris dans ce que Pessoa appelle l'appareil photographique du rêve. Et on peut sentir à partir justement de la rêverie et produire ces sensations. Et de toute façon, il y a quand même ce vertige à l'horizon aussi du travail du livre de l'intranquillité, c'est de proclamer d'une certaine manière la nullité du sujet et du monde, mais se produire aussi soi-même, comme un autre type de sujet, mobile, atopique, poreux, d'une certaine façon à l'existence et au devenir possible, et où je vois, moi, une puissance utopique, vraiment, de ces possibilités pour la subjectivité que le livre et l'écriture incessante, en effet, de Suarez permet.
Cette exploration des possibilités de la subjectivité va prendre la forme, vous l'avez dit, de l'hétéronomie, trouver des personnages différents qui vont raconter des histoires différentes, et va donner lieu aussi à des textes absolument magnifiques. Je vous propose qu'on écoute d'abord un extrait d'Armand Guibert, qui est celui qui a introduit Pessoa en France, un extrait de 1952 qui raconte comment les doubles, enfin les plusieurs de Pessoa lui sont apparus. Vous verrez, l'extrait est assez cocasse. Et puis ensuite, on va écouter un extrait du livre de l'intranquillité ou de l'inquiétude qui s'appelle « Esthétique de l'artifice » dans lequel le narrateur montre comment lui-même se vit sans cesse comme plusieurs.
Un jour de 1913, alors qu'il était debout devant une commode, en train d'écrire, il s'est senti investi par une personnalité qui n'était pas lui-même, et à laquelle il a donné un nom, le nom de Alberto Caeiro. Ça a été le premier à se manifester. Il l'a conçu comme une sorte de berger, de gardeur de troupeau, comme il l'appelle, et qui n'avait pas de culture proprement dite, qui n'avait que de la spontanéité, de l'intelligence, de la lucidité, et qui, dans un état de transe, a écrit en quelques heures 30 et quelques poèmes d'un seul jet. Et quelque temps après, une autre personnalité est née, En 1915, cette personnalité a écrit un long poème intitulé L'Aude triomphale, qui était où l'on peut trouver des influences de Whitman et de Sandra. Et ce personnage a reçu le nom de Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, qui était en principe, d'après ce que nous a dit son créateur, un ingénieur qui avait fait ses études à Glasgow et qui avait voyagé en Extrême-Orient. Et le troisième personnage s'appelle Ricardo Reis, celui-ci qui aurait été le maître des précédents, est un humaniste pur, une espèce d'esprit horacien qui compose des vers extrêmement équilibrés dans une forme archaïsante, et qui est un peu en dehors de la vie, n'est-ce pas? Alors que les autres sont au contraire au contact de la nature et de tout ce qu'il y a de moderne dans la sensation.
Et le quatrième personnage est-il Fernando Pessoa lui-même?
Ah non, celui qui est Fernando Pessoa lui-même, c'est celui qui signe Fernando Pessoa, car il y a tout de même un de ces personnages qui signe Fernando Pessoa.
La vie nuit à l'expression de la vie. Si j'avais un grand amour, jamais je ne pourrais le raconter. Je ne sais pas moi-même si ce moi que je vous expose tout au long de ces pages sinueuses existe réellement ou n'est qu'un concept esthétique et faux que j'ai forgé moi-même. Eh oui, c'est ainsi. Je me vis esthétiquement dans un autre. J'ai sculpté ma propre vie comme une statue faite d'une manière étrangère à mon être. Il m'arrive de ne pas me reconnaître, tellement je suis placée à l'extérieur de moi-même, tellement j'ai employé de façon purement artistique la conscience que j'ai de moi-même. Qui suis-je derrière cette irréalité? Je l'ignore. Je dois bien être quelqu'un. Et si je ne cherche pas à vivre, à agir, à sentir, c'est, croyez-le bien, pour ne pas bouleverser les traits déjà définis de ma personnalité supposée. Je veux être celui que j'ai voulu être et que je ne suis pas. Si je cédais, je me détruirais. Je veux être une œuvre d'art, dans mon âme tout au moins, puisque je ne peux l'être dans mon corps. C'est pourquoi je me suis sculptée dans une pose calme et détachée et placée dans une serre abritée de brises trop fraîches, de lumières trop franches, où mon artificialité, telle une fleur absurde, puisse s'épanouir en beauté lointaine.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de l'inquiétude de cette semaine, du livre de l'inquiétude ou du livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, aujourd'hui en compagnie de Régis Salado. Sachez, chers auditeurs, si vous n'avez jamais ouvert l'un de ces livres, Inquiétude ou Intranquillité, que le texte que l'on vient d'entendre est représentatif des textes que l'on y trouve, Régis Salado. C'est-à-dire, c'est à la fois d'une émotion bouleversante, d'une pudeur étonnante, d'une poésie précise et parfaite. Enfin, il est difficile de refermer ce livre quand on l'ouvre, ne serait-ce qu'une fois, à n'importe quel endroit, n'est-ce pas?
Oui, je dois dire que vous avez très bien choisi ce fragment qui porte un titre, Esthétique de l'artifice. Alors qui concentre, ce qui est quand même pas rien, effectivement, une assez grande précision, et il y a un propos qui est assez fort dans la dimension critique, la critique de la vie, ici. La vie ne suffit pas. Hein, c'est un peu ça. Et alors l'art est supérieur à la vie, d'où cette nécessité de cultiver ses sensations en serre, comme le dit le texte, et de se sculpter. On sent dans ce fragment-là tout un côté fin de siècle, un côté... un peu décadent, le côté des esseintes de Huysmans, c'est-à-dire on s'enferme, on tourne le dos au monde et on se sculpte, on essaie de se produire soi-même comme forme, comme objet d'art, comme image. C'est aussi tout un héritage évidemment du dandy baudelairien. Alors, en même temps, là il y a quand même une inflexion qui est spécifiquement pessoenne, c'est que dans cette production de soi comme œuvre d'art, je me sculpte, je produis une image de moi-même en fermant en quelque sorte les écoutilles du monde extérieur. Il y a aussi une manière de se perdre, c'est-à-dire je ne me reconnais pas, je me déréalise. Et donc, on n'est pas pris dans une sorte de cercle narcissique, mais il y a au contraire une sorte d'aventure qui est impliquée dans cette dépersonnalisation, hein, qui est effectivement poussée au risque de se perdre et peut-être de se dissoudre. Bon. Alors, il y a aussi dans la critique de la vie qui est faite dans ce passage et ailleurs dans le livre et ailleurs dans Psoa, il y a une dramatisation. Par exemple, ici, l'expression est quand même très très frappante. Si je vivais, je me détruirais. Si je vivais, je me détruirais. C'est caractéristique d'une manière saisissante de formuler les choses, parce que Pessoa est avant tout effectivement un grand artiste du verbe. Et donc là, il concentre quelque chose qui paraît paradoxal, mais qui en fait est totalement accordé à ce qui est dit par ailleurs dans ce fragment. C'est qu'effectivement, se livrer à la vie et à l'existence, c'est en effet se perdre et détruire ce qu'il y a de plus précieux en lui-même et qui ne peut pas s'accommoder.
Et qui est
en
quoi
fait.
Qui est l'écriture, qui est l'art?
Oui, et qui est une construction de soi qui implique une séparation avec le monde et le fait de se retourner vers un monde alors qu'il produit lui-même à partir de l'analyse de la sensation, à partir de la faculté à rêver, mais qui est en effet antinomique avec ce qui est désigné communément comme la réalité ou la vie.
Mais vous avez dit la vie ne suffit pas pour lui, comme si c'était un appétit tel qu'il fallait autre chose que la vie, il fallait d'autres vies. On trouve aussi des réflexions qui vont à l'inverse de ce mouvement qui conduit vers la vie, comme si la vie était source d'ennui, comme un vide qu'il contemple et qu'il ne souhaite pas forcément combler. Et puis surtout, l'idée qu'il n'arrive pas à vivre. Est-ce que c'est la vie ne suffit pas ou est-ce que c'est il est impossible de vivre, je suis à côté de la vie, hein, c'est ce qu'il dit. Je ne cherche pas à vivre, à agir, à sentir pour ne pas bouleverser les traits déjà définis de ma personnalité supposée. Il est en décalage par rapport à cette vie.
Ah oui, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a tout un jeu sur l'idée reçue de la vie. Bon, voilà, qu'est-ce qui est désigné ici par vie? C'est ce qui peut faire consensus, comme l'existence comme elle va, le souci de la vie, la nécessité des relations sociales, toute une série de choses dont le locuteur du livre veut se débarrasser. Mais il y a quand même aussi dans cette posture-là, c'est-à-dire une manière de substituer quand même un monde à un autre et un processus très actif dans cette façon de tourner le dos à la vie chez Pessoa. Et dans le cas du livre, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la première phase d'écriture, celle qu'on associe effectivement davantage à Vincent Gedge, il y a cette posture un peu, oui, décadentiste, d'isolement, de culte de l'artificialité, donc ici esthétique de l'artificialité, un côté aussi Oscar Wilde, il lisait tout à fait Oscar Wilde. Mais ensuite, dans la seconde phase, où on aura ce personnage de Bernardo Soares qui prend une certaine consistance, alors il se passe quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire, ce qui est déjà très beau, très saisissant ici, dans Esthétique de l'artifice, mais qui est un fragment plus ancien, ce qui va se passer quand même à partir de la deuxième phase, 28-29-30, c'est qu'on a un sujet qui se promène beaucoup plus dans Lisbonne, qui regarde aussi Lisbonne et une autre relation effectivement avec la vie qui l'entoure.
Oui, parce qu'au début il est à sa fenêtre, il fume des cigarettes, il regarde la pluie qui tombe, mais il ne bouge pas.
Oui,
alors et il méprise le voyage et le mouvement.
Le problème, c'est toujours regarder au début, bien sûr, c'est très compliqué parce qu'en fait, bon.
Bah, je dis au début parce qu'avait dit plus tard il sort, mais oui, en fait c'est un peu alors, éparpillé au sein du texte.
Le côté cultiver ses sensations en serre, c'est plus caractéristique, disons, d'une certaine attitude fin de siècle qui est aussi proche de son grand ami, le poète et auteur de contes, Mario Zaccarnero, dont la prose ou la poésie sont de cette sensibilité-là, plus fin de siècle, si vous voulez. Avec Bernardo Soares, quand même, il se passe un peu autre chose. Le paysage de Lisbonne existe davantage. On a la description de la vie dans le bureau du patron Vasquez et le passage, disons, du monde et du alentour dans lequel se déambule donc ce passant de Lisbonne qu'est Bernardo Soares, le passage entre le monde et ensuite ce que ça suscite de rêverie est différent. Il y a peut-être davantage de continuité et une présence plus peut-être plus grande, une prise en compte plus grande de cette réalité, notamment de la ville de Lisbonne.
J'ai devant moi les deux grandes pages du massif livre de contes. Je lève au-dessus de mon vieux bureau, où il est posé à l'oblique, des yeux fatigués, et une âme plus fatiguée que les yeux. Au-delà du néant que tout cela représente, le magasin, jusqu'à la Rua de los Duradores, aligne les rayonnages réguliers, les employés réguliers, l'ordre humain et la placidité du vulgaire. De l'autre côté de la vitre, il y a le bruit du divers, et le bruit divers est vulgaire, comme la placidité qui hante les étagères. Je baisse des yeux neufs sur les deux pages blanches, où mes chiffres soigneux ont inscrit les résultats de la société. Et avec un sourire que je garde pour moi, je me rappelle que la vie qui remplit ces pages de noms, de tissus et de chiffres, avec leurs espacements, leurs traits tracés à la règle, leur écriture soignée, comprend aussi les grands navigateurs, les grands saints, les poètes de toutes les époques, dont on ne tient jamais le livre, vaste ascendance écartée par ceux qui mènent le monde. Avec le simple enregistrement d'une étoffe, dont je ne sais à quoi elle ressemble, s'ouvrent à moi les portes de l'Inde et de Samarcande, et la poésie de la Perse, qui n'appartient ni à l'une ni à l'autre, apaise lointainement mon désarroi grâce à ces strophes dont le troisième vers ne rime pas. Voici comment Bernardo Suarez, donc un des hétéronymes de Pessoa, qui est un modeste employé de bureau, décrit son activité. Il est aide-comptable dans un magasin de tissus à Lisbonne. Et comment il fait le lien entre cette activité placide, vulgaire, il insiste sur ces termes qui sont assez dévalorisants, avec le monde à l'extérieur, dont il se souvient soudain qu'il est peuplé aussi de personnes très intéressantes, comme des aventuriers, et des poètes et des personnes qui elles-mêmes vont voyager. Et ici, le point de rencontre entre cet homme immobile à son bureau et ces êtres qui, au contraire, parcourent la planète, a quelque chose d'assez savoureux, d'assez drôle même, Régis Salado.
Ah oui, il y a une capacité de transfiguration là qui est vraiment extraordinaire. Alors, ce point intéressant, c'est un des rares fragments qui a été publié par Pessoa de son vivant. Il est publié, celui-là, dans une revue en 1929. Il y en a eu sur près de 760 documents. Et en général, le livre est fabriqué entre 350 et 500 fragments. Il y en a eu 12 de publiés seulement du vivant de Pessoa et la plupart attribués à Bernardo Suarez. Alors, celui-ci, donc, est publié. Ça veut dire qu'il l'a probablement revu, retravaillé, donc il est très abouti. Et ce qui est très frappant, c'est ce passage ici d'un livre à l'autre, parce que il est effectivement décrit. C'est l'employé de bureau. Donc ça, c'est un grand personnage de toute la littérature du 19e siècle et encore du début du 20e. Puis on trouve ça aussi, bon, si on pense, bon, Kafka aussi avait des moments comme ça d'employé de bureau ou d'autres. Donc il est là, c'est le copiste dans le livre de contes. Le lourd registre, il est devant ce lourd registre, etc. Et alors, à partir de cette situation, qui est le travail de Bernardo Suarez, etc., donc s'enclenche la rêverie. Et entre les lignes des chiffres qu'il aligne dans le livre des contes, tout d'un coup, prend son essor, cette rêverie extraordinaire, sur, effectivement, s'ouvrent les portes des Indes et de Samarcande, la poésie persane, etc., etc. Et donc, quelque chose se développe. Et on peut dire ici que, alors évidemment, c'est pas complètement avéré, mais est-ce par hasard que Pessoa a donné comme profession à Bernardo Suarez, l'auteur du livre du Desassossego, la profession de ajudante de guarda livros? Comptable se dit littéralement garde, gardeur de livres. Livros, livre de compte, bien sûr, en portugais. Et donc ici, on a effectivement les livres de compte. Et on voit très bien comment, à partir de cette situation-là, du quotidien et de la pesanteur de l'écriture des contes, se développe et se déploie une autre écriture destinée à un autre livre. Et en fait, le livre de l'intranquillité, c'est un peu ça. Vous avez cette écriture diurne, des contes, dans le livre des contes, dont Bernardo Soares est modestement, en fait, l'adjoint. Enfin, il est pas directement le comptable, il est adjoint comptable, hein, ajudante. Et puis la nuit, il ne cesse de le dire, la nuit, une autre vie se met en place, où il écrit, hein, où se développe cette écriture de la rêverie. Et là, dans ce fragment, on voit très bien, effectivement, le passage de ce livre des contes à un tout autre livre, qui est celui qu'on a sous les yeux, et où se développe, à partir justement de la situation du quotidien, une rêverie qui le fait voyager effectivement dans la splendeur passée du Portugal, c'est-à-dire ce pays qui a quand même découvert le monde, ce pays des grands voyageurs, des grands découvreurs.
Et cette rêverie est d'une intensité telle qu'elle lui suffit, c'est-à-dire qu'on trouve ailleurs dans le livre beaucoup d'ailleurs de fragments qui atteste de l'inutilité totale de voyager. Lui qui Pessoa a voyagé, vous l'avez dit, il a vécu en Afrique du Sud notamment. Et alors on trouve dans ces fragments de nombreux vers assez, enfin vers, c'est de la prose, mais bon, ça peut se lire un peu comme de la poésie, des réflexions en tout cas sur l'inutilité totale du voyage. Je ne vois pas pourquoi on irait voir en Chine ou ailleurs un coucher de soleil quand il suffit d'ouvrir la fenêtre et de le voir depuis chez soi. Et en fait, la rêverie vient se substituer au voyage.
Oui, et alors c'était cette question du voyage immobile qui avait déjà fait l'objet effectivement d'une émission et le voyager, perdre des pays, hein, dit Pessoa quelque part, c'est-à-dire c'est l'idée qu'au fond il n'est pas utile d'aller sur place. Hein, la rêverie nous transporte beaucoup plus sûrement. Et là, vous avez effectivement la rêverie vient et la réminiscence des vers de Poésie persane. Alors il a traduit Omar Khayyam. Rubaiyat, d'après une édition anglaise, hein, il ne parlait pas donc le persan, apporte un soutien lointain à mon malaise. Et le malaise, dans l'original, c'est désassociègue, justement. Hein. Et donc là, on voit
encore
très
une
bien...
traduction possible. C'est pas le livre du malaise.
Ah ben oui. Alors ça, c'est. Il faut quand même dire une chose, c'est que cette nouvelle édition par laquelle on a commencé un petit peu l'émission est aussi une chance parce qu'on a une nouvelle traduction. Alors la traduction de Françoise Ley est magnifique. La traduction, je dirais. La première en français, mais celle de Marie-Hélène Pivnik est très remarquable, très intéressante, très suggestive. Et le fait d'avoir deux traductions est une grande chance. Et notamment, ça produit cet effet, ouais. Qui est que le lexique du désassociego, intranquillité ou inquiétude, s'étend. Des mots nouveaux apparaissent dans la traduction de Marie-Hélène Pivnik pour désigner ce qui est désassociego dans le texte de Pessoa. Le mot désarroi, par exemple, qui me semble ne se trouvait pas dans la première traduction. Mais désarroi, malaise, parfois ça peut aller jusqu'à la nausée, ça va jusqu'à l'angoisse. Mais ça peut être aussi une forme d'agitation, de mobilité, de disponibilité au monde.
Un dernier point qui est peut-être une cause ultime à l'inquiétude, puisqu'on a commencé avec un texte qui disait que le sentiment d'inquiétude avait, en l'occurrence, dans ce texte-là, une cause, c'est la dimension plus historique, le contexte historique dans lequel écrit Pessoa, c'est-à-dire qu'il est quand même dans un Portugal où va éclater la guerre, et peut-être qu'à l'éclatement de la personnalité correspond aussi à l'éclatement d'un pays, de plusieurs pays, d'une guerre et d'un contexte politique qui, pour le coup, va être très mouvementé pendant les années qui vont suivre.
Il y a une vraie mise au point qui est faite dans le livre sur cette question de la situation historique. Alors pour le coup, ça on va le retrouver dans les trois parties, maintenant les trois livres qui composent cette édition Livre de l'Inquiétude. On retrouve à chaque fois pratiquement le même fragment, hein, qui dit quelque chose comme « j'appartiens à une génération qui est celle de la perte de la croyance ». Bon, je paraphrase, mais c'est bien ça, qui a perdu toute forme de croyance. Bon, donc c'est cette génération d'après la mort de Dieu, les dieux se sont retirés, et donc il est impossible de substituer la croyance en le progrès ou la science positive aux anciennes croyances et mythologies. Donc il y a cette situation, je dirais, très large, historique, européenne, qui n'est pas propre au Portugal. Alors ensuite, il y a le cas particulier du Portugal, qui est un pays qui, effectivement, connaît quand même... Alors, Pessoa revient après son séjour en Afrique du Sud, donc qui correspond à ses années de collège et lycée. Il revient à Lisbonne en 1905, et très peu de temps après, donc il y a un régicide. Le roi Carlos Ier est assassiné, place du commerce avec l'héritier. Donc, il y a des années très agitées. Proclamation de la République en 1910... République très instable, qui donne lieu ensuite à une sorte de coup de force et de dictature par un homme providentiel. Bon, et puis finalement tout ça va nous amener dans une grande agitation jusqu'au gouvernement de Salazar à partir plutôt de 1928. Mais là, ça se met en place donc ce régime qui, pour le coup, lui va être très très stable. Donc, il vit une période historique en effet agitée, en effet compliquée au Portugal. Mais il y a aussi dans la dimension, je dirais, un peu historique ou biographique de ce qu'a vécu Pessoa des Assos-Segur, il y a quand même la question biographique de quelqu'un donc qui perd très tôt son père et qui est arraché quand même au Portugal et qui va à 5 ans vivre en Afrique du Sud. Et là, il va devenir prodigieusement doué, intelligent, il va apprendre très vite l'anglais, il va passer donc d'une langue à l'autre et il va devenir d'abord un écrivain en anglais. C'est-à-dire qu'il va vouloir faire une carrière d'écrivain anglais. Quand il va revenir à Lisbonne, il va écrire énormément en anglais de poésie très différente. Donc le phénomène de l'hétéronymie peut aussi être mis en relation avec la question des passages entre les langues et ces différentes appartenances culturelles chez Pessoa.
J'appartiens à une génération qui a hérité du rejet de la croyance en la foi chrétienne et qui a institué en son sein le rejet de toutes les autres croyances. Chaque civilisation suit la voie intime d'une religion qui la représente. Passer à d'autres religions, c'est perdre celle-là et finalement les perdre toutes. Nous avons donc été pour chacun de nous livrés à nous-mêmes à la désolation de nous sentir vivre. Merci à vous, Régis Salado, d'être venu nous parler de Pessoa aujourd'hui.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir.
Un plaisir partagé avec les auditeurs qui, j'espère, auront envie de lire le livre de l'inquiétude ou le livre de l'intranquillité. C'est chez le même éditeur, de toute façon, c'est de Pessoa dans les deux cas. Lisez-le, n'hésitez pas. On se quitte avec le Livro de Desassossego, chanté par Olivia Bington sur France Culture. Les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo aujourd'hui, vous nous faites part de votre goût pour les faits divers.
Mais vous aussi, tout le monde d'ailleurs, aime les faits divers, qu'il s'agisse de crimes passionnels, de vengeance ou de jalousie, d'accidents tragiques, vous savez, les vacances ou le Noël en famille qui dérape, ou tout simplement de chiens écrasés. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-on le goût du fait divers? Eh bien, c'est la question posée en ouverture de ce recueil, Le goût des faits divers, qui paraît aux éditions Mercure de France demain. Passion pour l'horreur, fascination pour l'obscène ou simple curiosité pour l'extraordinaire, les faits divers n'ont pas cessé d'alimenter nos imaginaires et ceux des écrivains. On le voit dans ce recueil, de Hugo à Giono, de Madame de Sévigné à Régis Joffray, prix Goncourt début mai de la nouvelle pour ses microfictions, mais aussi l'imaginaire des philosophes et sémiologues.
Eh bien, un fait divers m'intéresse parce que, précisément, il n'est pas, si vous voulez, à mes yeux, la simple relation d'un fait réel qui a existé, une sorte de relation neutre et objective, mais il est un véritable récit, comme on peut en trouver dans des contes populaires autrefois, c'est-à-dire une certaine façon que le journaliste a, et derrière le journaliste d'ailleurs très vraisemblablement tout son public, de déformer en quelque sorte le fait, de le décomposer en ses thèmes, en ses constantes, pour reconstituer un objet nouveau et nouvellement agencé qui est le récit.
C'est en 1964 que Barthes, sur sa lancée des mythologies et sa volonté de créer une encyclopédie des symboles du quotidien, propose une analyse du fait divers. C'est dans ses essais critiques. Fait déformé en récit, on peut comprendre que le fait divers nous plaise. Il est comme une histoire qu'on nous raconte, comme un film que l'on regarde, comme une série que l'on suit. À ceci près qu'il a lieu dans un quotidien réel et connu. C'est d'ailleurs pourquoi, à côté de Barthes, on pourrait aussi citer Michel Foucault, pour qui le fait divers est, je cite, « un échangeur entre le familier et le remarquable. De l'extraordinaire qui surgit de l'ordinaire, de l'inattendu jaillissant de l'attendu, de l'incroyable au creux du réel. Mais cette apparition de l'étrange dans un environnement familier, cette articulation des contraires, suffit-elle vraiment à expliquer notre goût pour le fait divers ?»
Alors, les faits divers, peut-être. C'est même certain. Il y a parfois dans ces rubriques des récits propres à dérouter le sens commun. Celui d'un Américain comme moi, en tout cas.
Je serais ravi si vous me trouviez l'un de ces récits.
Double assassinat dans la rue Morgue. Tous les détails, les témoignages dans le petit journal.
5 centimes, monsieur. Merci, monsieur.
Double assassinat dans la rue Morgue. Un crime horrible. Du jamais vu. Découverte macabre dans la maison d'une humble femme. 5 centimes. Merci.
Le goût pour le fait divers ne peut pas s'expliquer que par la folie surgissant de la banalité. Ainsi, en entendant cet extrait de la nouvelle d'Edgar Allan Poe de 1841, peut apparaître une curiosité pour le crime, un désir aussi de vouloir jouer les détectives, mais également le plaisir cathartique de voir ce qui peut arriver aux autres, mais ne nous arrive pas à nous. Mais au fond, que contient un fait divers pour se propager ainsi? Alors certes, on a le goût des histoires extraordinaires, on est fasciné par l'horreur, on est rassuré à l'idée que ce ne soit pas nous, mais ce sont des ressorts psychologiques. Or qu'est-ce que le fait divers a en lui comme ressort pour nous toucher, nous contaminer et se diffuser ainsi? L'extrait d'Edgar Allan Poe nous révèle que tout part du journal. Et si le fait divers est un récit, il ne s'agit pas de n'importe quel récit. Il s'agit d'un récit par essence médiatique, c'est-à-dire propre à être communiqué et à être partagé. C'est un récit qui nous réunit. Mais en quoi nous réunit-il?
Un crime d'ordre exceptionnel, rarissime. Il avait 4 ans, l'enfant. Très souvent, non. L'image de l'enfant m'empêchait d'écrire. Il était débordé par l'enfant. Il était devenu gigantesque, terrible. Même maintenant, vous voyez, j'en suis ému encore. Comme si on ne pouvait pas y toucher, au cadavre de l'enfant. C'était... Les conséquences étaient infinies. On ne pouvait pas les compter, les conséquences, ni les prévoir.
En 1985, Marguerite Duras se rend pour le journal Libération sur les lieux d'un des plus célèbres faits divers, la mort du petit Grégory. Sans enquête, elle désigne pourtant la mère comme coupable. Elle fait, par écrit et à voix haute, ce que chacun d'entre nous fait lorsqu'il se passionne pour un fait divers. Elle prend parti. Elle ne fait pas qu'assister en spectatrice ou lectrice à une histoire. Elle ne fait pas que regarder le spectacle d'un drame familier, mais qui n'est pas le sien. Elle rend réel et proche, au contraire, par son sentiment et sa prise de parole, ce possible réalisé, actualisé, dans les actualités d'ailleurs, mais qu'on a voulu transformer en histoire à distance. Elle nous montre que le fait divers est la vie qu'on partage et non une vie qu'on regarde et qui fait diversion.
Et donc je vois ce petit livre à vos côtés, Géraldine, car c'est un petit livre qui est une bonne nouvelle, les petits livres sont toujours plein de surprises, qui s'appelle Le goût des faits divers, c'est donc celui-là.
Et c'est à lire demain et ça paraît aux éditions Mercure de France.
C'est noté, merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Maud Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosnes à voix bien sûr, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Lucas Vaillant qui est à la prise de son aujourd'hui, Nicole Garcia à la lecture des textes cette semaine. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette série sur l'inquiétude. Demain, nous parlerons de l'âme agitée de Michel de Montaigne. Ce sera en compagnie de Silvia Giocanti. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez non seulement la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, à l'heure de votre choix. Et l'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain, à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. À midi, ce sera la grande table d'Olivia Gesbert. Et à 11h, c'est-à-dire maintenant, Florian Delorme pour son émission Culture Monde.